Radio Okapi. Écho des développements.
Bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables de Radio Okapi qui s'intéresse à l'importance de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC que vous présente Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui supervise et coordonne ce numéro et Polydor Basunga est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute d'Écho du développement.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Merci de rester branché à Radio Okapi, la fréquence de la paix. En RDC, le rendement du maïs est déjà faible à cause des contraintes traditionnelles liées à une agriculture de subsistance selon l'Institut National de Recherche Agricole, INERA. Cette céréale est pourtant l'un des principaux aliments de base de la population congolaise et elle est cultivée dans tout le pays, en particulier dans la bande allant du sud du Katanga en passant par les provinces du Kasaï, du Bandundu jusqu'à celle du Congo central. Cependant, l'arrivée de la chenille légionnaire d'automne est donc une menace qui risque d'affecter davantage la production des maïs en RDC si des mesures sérieuses ne sont pas envisagées à temps car des fermiers enregistrent des pertes d'environ 40% de la récolte. Comment lutter efficacement contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC? Tentative des réponses au cours de ces numéros des Codes du développement qui débute avec les témoignages de M. Ali Tito, infirmier de Louisa au Kasaï central. Ce cultivateur soutient que la chenille légionnaire d'automne du maïs est à la base de la baisse de la production, spécialement du maïs à Louisa et dans d'autres milieux ruraux de la RDC. Cela accentue les problèmes de l'insécurité alimentaire en RDC, ajoute ces fermiers.
Le problème de la chenille légionnaire, c'est un problème courant éminent qui s'est vu actuellement presque dans beaucoup de milieux ruraux, en général et particulièrement ici chez nous à Louisa. Et c'est principalement la cause de la baisse de la production agricole et du maïs, accentuant ainsi l'insécurité alimentaire.
La chenille légionnaire d'automne est un insecte ravageur qui attaque plus de 80 espèces de plantes causant des dégâts à des céréales telles que les riz, les maïs, les sorgots, ainsi que d'autres cultures maraîchères selon nos sources. C'est un insecte dont le cycle de vie varie entre 25 et 30 jours et qui se développe dans les températures des pays tropicaux. L'écologie de la RDC est de ce fait favorable à la prolifération de cet insecte, indique le professeur Lina Moukoua, experte chargée des questions de production et protection des végétaux à la FAO.
La chenille légionnaire, c'est un lépidoptère, c'est un insecte de la famille des lépidoptères et du genre Spodoptera, l'espèce Spodoptera frugiperda. C'est un insecte qui a un cycle de vie qui varie entre 25 et 30 jours et qui se développe à des températures de 25 à 35 degrés. Et donc les températures de la RDC sont idéales, donc les conditions agro-environnementales de la RDC sont idéales pour le développement de la chenille légionnaire. La chenille légionnaire se nourrit de la culture du maïs, donc des feuilles du maïs, et ça peut parfois coloniser des tiges de maïs. Et par là, ça peut manger une bonne partie des feuilles, ce qui réduit la surface photosynthétique et par là, avec comme conséquence de réduire considérablement la production du maïs.
Quelle est l'origine de cet insecte ravageur? Ingénieur agronome Damas Mamba, directeur de la division chargée de la protection des végétaux, direction de la production et protection des végétaux au secrétariat du ministère de l'Agriculture, répond.
La chenille de légionnaire d'automne, c'est un ravageur venu des Amériques, apparaît en Afrique au point de l'île Maurice en 2016, mais déjà au mois de janvier 2016, elle a fait l'apparition au Nigeria, mais c'est seulement quand elle est arrivée en île Maurice que l'alerte a été donnée. Et chez nous, elle a été constatée en novembre 2016. Les deux points d'entrée, c'était Libengue et Kambove. Alors, les deux points, c'est là où il y a eu l'alerte. Les chercheurs de l'INERA et de l'ITEA ont été dépêchés, y compris ceux du ministère de l'Agriculture, pour prendre des échantillons. Les échantillons prélevés ont été envoyés au laboratoire de ITEA au Bénin,
oui,
qui a constaté qu'effectivement nous avons la chenille légionnaire d'automne qui est d'origine Amérique. Et le automne, puisqu'elle migre pendant l'automne du nord au sud, est également la même chose. Et comment elle est arrivée chez nous, c'est un grand point d'interrogation. Et après, en 2017, des échantillons ont été relevés dans 86 territoires de notre pays, avec 340 experts dépêchés partout. Les échantillons prélevés, renvoyés encore au laboratoire de ITEA au Bénin, vont confirmer la présence de la chenille de l'automne. C'est comme ça qu'en avril, le ministère de l'Agriculture va faire un signalement officiel, c'est-à-dire une déclaration officielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les déficits de céréales en RDC, maïs, sorgho, riz, millet, représentent environ 10 millions de tonnes. Les légumineuses, environ 3 500 tonnes. Et la chenille qui arrive enfonce encore ces déficits. Vous avez parlé une moyenne de trucs, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 64% d'incidence.
Pour la petite histoire, c'est en 2016 que le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a appuyé les actions de lutte contre cet insecte ravageur à Binga dans le nord Ubangi et à Kambove dans la province du Haut-Katanga en élaborant notamment un plan national de lutte contre cet insecte ravageur, indique le professeur Lina Mukwa, experte chargée des questions de production et protection des végétaux à la FAO.
Alors, chez nous, la chenille légionnaire d'automne est arrivée en 2016. Avec deux alertes à deux endroits différents, donc Kambove et le sud d'Ubangi. Et à partir de ce moment-là, la FAO a appuyé les activités d'évaluation d'incidence de la chenille légionnaire afin d'aider les politiques à pouvoir mettre en place des stratégies efficaces dans la lutte contre ce ravageur. Et donc, de cette façon, la FAO a aussi appuyé l'élaboration du plan national de riposte contre la chenille légionnaire qui a été mis au point avec l'objectif en fait que toutes les actions ultérieures de lutte contre la chenille légionnaire puissent s'appuyer sur ce plan national qui est un plan qui a été établi pour être exécuté sur 4 ans. Avec une valeur monétaire évaluée à 27 millions de dollars.
Qu'est-ce qui a été fait concrètement dans le cadre de cette action-là menée par la FAO?
Alors, la FAO, déjà sur fonds propres, avait appuyé le ministère de l'Agriculture pour pouvoir mettre en place, par exemple, des champs écoles paysans, qui sont des écoles au champ, en fait, pour pouvoir appuyer les agriculteurs à identifier la chenille légionnaire, donc savoir reconnaître, mais aussi savoir mettre en place des techniques de lutte en utilisant les moyens locaux qui ne coûtent pas cher. Et donc, de cette manière, la FAO a appuyé l'installation de près de 400 champs écoles paysans à travers le pays. La FAO a appuyé la formation des facilitateurs internes des champs écoles paysans, mais aussi la FAO a appuyé l'introduction des nouvelles technologies de lutte, notamment les pièges, par exemple, les pièges qui fonctionnent avec le phéromone, qui est l'hormone qui attire l'insecte mâle. Cette technique permet en fait d'évaluer le niveau d'incidence de la chenille légionnaire et pouvoir prendre la décision de mener une lutte chimique ou une autre lutte. À côté de ça, la FAO a appuyé la distribution de moyens biologiques des luttes. Il y a une bactérie qui est synthétisée sous forme d'un produit qu'on va appeler le bioca-16 qui contient le bacillus thuringiensis. Le bacillus thuringiensis, c'est une bactérie qui permet de lutter contre les insectes. Ça a été prouvé scientifiquement, mais chez nous, on a essayé de remettre ça au niveau des agriculteurs pour appuyer les moyens de lutte qui sont là.
À partir de 2017, plusieurs signaux d'alerte ont annoncé la présence de la chenille légionnaire d'automne dans les différentes régions de la RDC, ajoute Véronique Prasic, chef des projets de lutte contre la chenille légionnaire de l'Agence américaine d'aide au développement USAID.
En 2017, cette organisation qui s'appelle le CABI a signalé que plus de 90% des champs de maïs en RDC étaient infestés. En 2019, le ministère de l'Agriculture a signalé une infestation dans les 26 provinces de la RDC. Plus d'un million d'hectares de champs de maïs dévastés par ce ravageur sur 141 territoires sur les 150 de votre pays. La chenille légionnaire d'automne est irréversible, sans contre-mesure appropriée. Ce sera peut-être la menace la plus dévastatrice pour le maïs et peut-être pour d'autres cultures, parce qu'on dit que la chenille légionnaire d'automne, quand elle n'a plus rien dans le maïs, c'est-à-dire dans la plante et même dans l'épi, elle va vers d'autres cultures, jusqu'à 80 autres cultures. Donc, ça sera certainement une grande menace pour la sécurité alimentaire, surtout en RDC, puisque le maïs constitue la nourriture de base du Congolais. Et c'est non seulement une culture importante pour la consommation humaine, mais également animale. Les vrais problèmes de la chenille légionnaire d'automne, il y a trois aspects de sa biologie. D'abord, elle a une courte durée de vie et il y a absence d'hibernation. Elle est très sensible au climat. Elle n'aime pas le froid. C'est un peu comme le Covid, n'est-ce pas? Elle n'aime pas le froid. Mais elle prospère dans des températures supérieures à 28 degrés. Elle a un modèle de migration à courte, moyenne et longue distance. C'est une migration facultative. La chenille légionnaire d'automne a une durée de vie de 30 jours, ce qui contribue à la résistance rapide aux insecticides. Dans ces circonstances, une seule intervention de lutte antiparasitaire est insuffisante pour prévenir les dommages causés aux cultures lors d'une éclosion. Alors, quel est le but du projet? Le but du projet, c'est de permettre aux petits agriculteurs de maïs, qu'ils soient féminins ou masculins, dans les zones cibles, d'avoir un accès égal à l'information, aux compétences et aux intrants nécessaires pour gérer efficacement et en toute sécurité la chenille légionnaire d'automne. En fait, le but du projet, c'est de faciliter l'augmentation des rendements du maïs par l'intermédiaire de ce qu'on appelle GAP-IPM, c'est-à-dire une gestion intégrée de contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Ce contrôle démarre par les démonstrations des bonnes pratiques agricoles.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez en ce moment les magazines Écho du Développement, votre émission de promotion des questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse à l'importance de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs en RDC. Donnons une fois de plus la parole à Monsieur Ali Tito, infirmier de Luisa au Kasaï Central. Ce producteur agricole suggère que l'État congolais accorde une attention particulière aux cultures de base qui sont ravagées par par cet insecte sur l'ensemble du territoire national. L'État doit aussi doter aux producteurs agricoles des moyens conséquents de lutte contre cet insecte ravageur.
Il faut qu'on accorde une attention particulière aux cultures de base et plus précisément à la culture de maïs. Que l'État dote aux paysans et aux services attitrés les produits phytosanitaires pour détruire cette chenille. Et qu'on crée des pharmacies phytosanitaires et vétérinaires dans chaque territoire. Je prends un exemple, par exemple, la pseudo-peste aviaire pour les poules ici chez nous. Il y a quand même des gens qui peuvent y avoir des moyens, tout ça pour payer les produits pharmaceutiques, tout ça. Mais où est-ce qu'il faut s'en procurer? On n'en trouve pas. C'est la même chose avec les produits sanitaires ou phytosanitaires. Il faudrait qu'on en crée peut-être dans chaque territoire parce que c'est un problème qui nous préoccupe.
Quels sont les moyens de lutte contre cet insecte ravageur mis en place dans les différents pays? Maoufé Aboudjovou, chercheur à l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, répond.
Dans différents pays, pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté des approches d'urgence basées sur une utilisation que je peux qualifier abusive des pesticides de synthèse en se basant juste sur les seuils, certains seuils que j'ai mentionnés, c'était seuil d'incidence. Après tout, je ferai un peu la nuance entre l'incidence, la sévérité et autres, sans valider l'efficacité de ces différentes technologies dans nos conditions locales. Par exemple, si il trouve un produit efficace, par exemple au Brésil, on recommande ça directement pour que le producteur qui est peut-être dans le Kassai aussi l'utilise, sans toutefois passer par la validation. Et on sait que l'efficacité d'une technologie dépend des conditions agroécologiques dans lesquelles nous intervenons. Donc ceci justifie le pourquoi nous devons valider les technologies avant de passer à leur vulgarisation. Quand nous parlons de la validation, il y a deux perceptions. La perception des firmes agro-pharmaceutiques qui se posent seulement une seule question. Est-ce que ce produit tue le ravageur? Mais nous qui avons à cœur l'intérêt du producteur, nous allons au-delà de cette question qui est: est-ce que le produit tue l'insecte, mais aussi est-ce que cela protège, enfin est-ce que cela a un gain économique pour le producteur, est-ce que cela protège l'environnement, est-ce que cela sécurise la santé du consommateur? Donc nous autres, nous pensons à cette dimension. Et aussi, pour qu'un produit puisse être validé, il faut qu'il y ait certaines conditions. Et l'une des conditions, c'est qu'il faut que nous soyons dans des conditions de forte pression pour que le produit puisse ramener la pression du ravageur en deçà du seuil économique de nuisibilité. Alors, nous avons conduit des essais de validation dans le sud Kivu et dans le haut Katanga. Dans le haut Katanga, nous avons basé nos essais à Inera Kipopo et à Kanyameshi. Je ne présenterai pas les résultats de Kanyameshi parce que la collecte des données est toujours en cours. Mais au niveau du sud Kivu, nous avons conduit nos essais à Bishibiru puis à Inera Mulungu. Les technologies que nous avons testées, nous les avons sélectionnés après une consultation participative avec les partenaires, notamment l'INERA, la Direction de la protection des végétaux, et aussi en consultation avec d'autres centres de recherche internationaux tels que CABI, l'ICP, CIMIT et autres, là, pour avoir une liste de technologies qu'on peut tester dans les conditions de la RDC. Et puis nous avons soumis cette liste à l'approbation de l'USAID. Et dans le cas spécifique, nous avons utilisé les semences du maïs Mudishi, le niébé Nsansi et le manioc Diama. On a utilisé l'engrais DAP et l'urée On a testé les pesticides botaniques à base du titonia, du versifolia, du chrysanthémum et le nîmes et le piment aussi. Comme pratique locale, une de nos consoeurs a parlé aujourd'hui de l'utilisation du sable. Donc, nous avons testé le sable et la cendre. Et comme insecticide chimique, nous avons testé les macotes et l'ampligo. Les macotes, la matière active, c'est le mamectine benzoac. L'ampligo est constitué du chlorantraniliprol et du lambda cyalotrine, puis du biopesticide bio-K16 qui est à base du bacillus thuringiensis. Alors voilà présenté brièvement notre dispositif. Le premier nous montre comment on a disposé nos essais avec les pesticides et le second nous montre comment on a disposé nos essais en intercropping, c'est-à-dire où on a associé le maïs avec le manioc et le maïs avec le niébé.
Que vise exactement le projet de lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs lancé en 2019 par l'USAID en RDC? Véronique Praz, la chef des projets, nous donne des précisions.
C'est une amélioration du contrôle de la chenille légionnaire d'automne. On ne pourra pas éradiquer la chenille, mais on pourra la contrôler sans l'utilisation de pesticides toxique. Notre bailleur de fonds, l'USAID, est très strict sur la protection de l'environnement, tout comme le ministère de l'Agriculture. Donc, le deuxième objectif de ce projet, c'est le renforcement de capacités de résilience dans les communautés cibles touchées par la chenille légionnaire d'automne. Mais vraiment, les bénéficiaires directs de ce projet, c'est surtout les petits agriculteurs, les petits producteurs de maïs. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus nombreux en RDC. Mais sans oublier, bien sûr, les grandes exploitations, parce que comme toute peste, les pestes passent d'une grande exploitation à une petite et vice-versa. Donc, mais le but et les objectifs du projet contribueront à l'objectif de la RDC, c'est-à-dire d'améliorer les vies grâce à des approches de développement coordonnées dans certaines régions. Votre pays est tellement grand qu'en 5 ans, le projet ne pourra pas atteindre toutes les provinces, mais on espère que ce projet pourra, dans certaines provinces cibles où il y a le plus de production de maïs, on espère que ces provinces pourront servir de modèle aux autres provinces dans le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Alors, nous avons 2 partenaires principaux. On appelle partenaires, ce sont des organisations qui ont des contrats de sous-traitance avec l'Indolec Venture 37. L'Indolec Venture 37 est le maître d'œuvre et a 2 partenaires, c'est l'ITA qui est l'Institut International Tropical de l'Agriculture et Villa Crop Protection qui est une petite société basée en Afrique du Sud qui développe et distribue des produits de protection des végétaux. Donc, avec l'IDEA, et vous aurez la présentation beaucoup plus détaillée que la mienne, il y aura la présentation de l'ITA. ITA est notre partenaire pour la recherche. Pourquoi la recherche ? Parce que ce projet doit faire des recherches sur des technologies appropriées et accessibles aux petits producteurs de maïs, des technologies qui sont, comme je dis, accessible aux petits producteurs, mais approprié aux différents contextes de la RDC. Donc, l'ITA, pourquoi l'Indolec est rentré en partenariat avec l'ITA? C'est parce que l'ITA déjà a une grande station de recherche à Kalambo, au sud Kivu, et dispose également des laboratoires et beaucoup d'expérience dans le domaine de la recherche agricole. Ils ont également une grande station de recherche donc au sud Kivu et également au Haut-Katanga, n'est-ce pas, Donc, il collabore avec INERA au Katanga. Donc, c'est pour ça que ITA a été choisi comme un des partenaires clés du projet. Le deuxième partenaire, c'est Villacrop Protection. Alors, Villacrop va appuyer le projet pour améliorer la distribution, surtout des intrants, au profit des petits producteurs. Donc, Villacrop, on espère, va renforcer surtout les capacités des intervenants aussi dans le secteur privé et appuyer le projet pour favoriser l'amélioration du système d'approvisionnement en intrants.
Le respect du calendrier agricole et des techniques d'éculture et d'entretien des champs de céréales et autres cultures maraîchères permet aussi de lutter contre la présence de cet insecte ravageur, conclut l'ingénieur agronome Damas Mambamamba. Nous rappelons qu'il est le directeur de la division chargée des protections des végétaux, direction de la production et protection des végétaux au secrétariat général du ministère de l'Agriculture.
Ce qu'on a eu à faire ces années auprès de producteurs, pour identifier, nous sommes allés avec deux photos pour que les gens connaissent.
Exactement, oui.
Qu'ils connaissent, est-ce que c'est ça la chenille? Qu'ils sachent l'identifier. Et quand vous l'envoyez dans votre champ, avec deux à trois larves, c'est déjà l'alerte, il faut partir. Il y a la surveillance.
Surveillance.
Il y a l'alerte. Vous avez vu, vous signalez. Quand vous avez vu tôt, et vous signalez auprès de l'agronome qui est aux côtés de vous, auprès de scientifiques qui est à côté de vous, déjà, c'est une bonne chose. C'est comme vous avez appris qu'il y a un rebelle quelque part, dès que vous signalez, nous faisons le contraire de forces armées, nous faisons ce que, puisque la santé de végétaux n'a pas de prix. Et quand vous alertez, vous devez commencer par ce qu'on appelle cette surveillance, elle est déclinée en trois phases qui sont simples. La phase préventive. La phase préventive, et c'est ce que nous apprenons aux gens. Il faut commencer à s'aimer tôt. Puisque nous sommes dans un pays où il y a une forte pluviosité, il a été constaté que quand vous avez autant de pluie, on a la chance que les chenilles tombent et meurent. Alors vous avez à s'aimer dans le respect du calendrier agricole. Et quand vous respectez le calendrier agricole, là nous parlons déjà des techniques culturales.
Oui.
Il faut de bonnes pratiques culturales. S'aimer tôt, bien labourer son champ, avoir de la bonne semence, bien fertiliser son sol, bien faire le bon entretien. Et là, vous avez fait une bonne part, puisque la prévention coûte moins cher que la lutte curative.
C'est par ici que s'achève Écho du développement consacré à l'importance de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne du maïs que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé ce numéro et Polydore Bassunga était à la prise des sons. Retrouvons-nous pour un nouveau rendez-vous d'Écho du développement le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien.